c'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Alors que le dernier album d'Astérix, Astérix et le Griffon, est sorti jeudi dernier, aujourd'hui on va s'intéresser à un jeu sur le thème du célèbre Gaulois. Enfin, pas tout à fait non plus, on va plutôt parler de Jules César. Oui, et précisément de son empire, l'Empire de César, est un jeu de Mathieu Potvin, coédité par Holy Grail Games et Synapse Games. D'ailleurs, on parlera de ce rapprochement dans quelques instants avec Jamie Parsons de Holy Grail Games. Alors, l'Empire de César est un jeu familial pour 2 à 5 joueurs. Alors, c'est jamais facile d'adapter une licence sur un jeu, mais on peut déjà dire que c'est réussi quand on voit le matériel. Le plateau, les figurines légionnaires, les illustrations de Alexandre Bonvalo et Joël Drance, plongeons-nous dans l'histoire exactement en 50 ans avant Jésus-Christ. Rappelez-vous cette petite phrase, toute l'Europe sera bientôt occupée par les Romains, toute, non, à l'exception d'un petit village d'irréductibles gaulois. Mais je vous ai dit il y a 30 secondes que c'est pas eux qui nous intéressent aujourd'hui, car l'empereur Jules César vous a réquisitionné. Il veut construire des routes dans les plus grandes villes pour étaler son territoire. Alors vous allez donc incarner l'un des célèbres serviteurs comme Brutus, Gracchus, Garovirus, à ne pas confondre avec Coronavirus, Tullius, Detritus, Appius, Bégalitz et La Traviata. Alors chaque joueur choisit un personnage, récupère un plateau qui lui permettra de déposer ses richesses quand il s'arrêtera dans une ville. Et il prend aussi bien... entendu, toutes ces troupes de légionnaires, il en a au total 25, c'est elles qui permettront de construire les routes en se déployant. Il pourra utiliser aussi les routes des autres, vous allez voir comment. La partie s'arrête quand la ville de Rome est reliée à toutes les villes. Alors comment on joue? Eh bien avant tout, après avoir déplié le plateau, vous allez poser les villes et les ressources. Vous allez voir, les actions sont très simples. Je construis une route ou j'utilise une route déjà construite. Je récupère le jeton de la ville et la richesse de celle-ci, si elle y est encore forcément, et je reviens à Rome. Pour construire une route, je pose une ou deux troupes de légionnaires, tout dépend combien la route nécessite de troupes romaines. C'est indiqué sur le plateau par une séparation. Si vous êtes le premier dans la ville, vous récupérez le jeton ville qui vous donnera des points de victoire en fin de partie. Ainsi que la richesse. Alors ça peut être des ressources comme le bois, un gigot, du raisin ou des olives, une pierre précieuse, il y en a 8 au total. Mais aussi des pièces d'or. Le décompte sera différent, mais on va y revenir. Alors toutes ces ressources sont visibles de tous les joueurs au début de la partie. Ensuite, il faut repartir à Rome. Car n'oubliez pas que tous les chemins mènent à Rome. Bon, ok, elle était facile à faire celle-là. Mais en gros, vous allez prendre le chemin retour le plus court pour rentrer. Bien entendu, vous laissez vos troupes déployées sur les routes. Si vous passez par vos routes où vos légionnaires sont déployés, vous marquez un point par troupe sur la route. Mais si vous passez par des routes appartenant à d'autres joueurs, c'est eux qui marqueront un point. Si jamais lors de votre conquête de la ville, vous avez ramassé un jeton pièce d'or, ce n'est pas un point, mais deux points que l'on marque pour retourner à Rome. Vous pouvez toujours traverser des villes vides pour en atteindre une nouvelle, car elles sont reliées à Rome, donc pas de souci. La partie s'arrête quand toutes les villes sont reliées à Rome. Il est temps de regarder ensuite quel serviteur a remporté le plus de points. Sur votre plateau personnel, vous avez 8 colonnes pour les 8 richesses avec 4 emplacements à chaque fois. Plus vous en avez d'un même type, plus vous marquez de points. Mais vous marquez des points aussi pour les collections différentes, sans oublier le nombre de pièces d'or que vous avez récoltées. Et c'est pas tout, les villes ont aussi des points. Autant dire qu'il faut réfléchir à tout. Le joueur avec le plus de points remporte la partie. Alors avec l'Empire de César, on est vraiment plongé dans l'univers d'Albert Uderzo et René Goscinny. On a toujours peur de jeux à licence, mais là franchement c'est réussi. Mention spéciale pour les figurines superbement détaillées des légionnaires qui sont du plus bel effet sur le grand plateau. Les tours sont rapides, il faudra réfléchir s'il faut ouvrir une nouvelle route pour permettre à un autre joueur d'aller récupérer son quatrième gigot. Comment faire pour donner le moins de points à mes adversaires sur le retour à Rome? Autant dire qu'on se pose pas mal de questions avant de faire l'action. On aura un petit côté aventurier du rail, mais avec une autre mécanique. Les légionnaires sont en route pour conquérir les villes du vieux continent européen et faire plaisir à César. Et nous, on est conquis par ce jeu familial où les parties seront tendues jusqu'à la fin. Allez, on parle de tout ça avec Jamie Parsons d'Holy Grail Games, juste après Luan et Mea Mor sur Millennium.
C'est ludique. L'invité de la semaine.
Et mon invité aujourd'hui, c'est Jamie Parsons d'Holy Grail Games. Bonjour Jamie.
Bonjour, bonjour. Merci merci de m'avoir invité.
Alors très heureux, hein, parce que c'est la première fois sur C'est Ludique. On va présenter un petit peu Holy Grail Games. Alors je viens de présenter l'Empire de César, votre nouveau jeu. Mais on va présenter un petit peu l'équipe. Comment est né Holy Grail Games? Combien vous êtes?
Oula, alors donc, du coup on est actuellement 5.
Ouais.
Donc on reste une petite équipe. On est en activité depuis environ 6 ans maintenant. Et l'entreprise est née tout simplement d'une passion pour les jeux de société entre moi, Olivier et Eric, mes deux associés.
Oui.
Et en fait, moi j'étais déjà un petit peu dans le milieu du jeu en tant que, j'ai fait un peu toutes les étages du milieu du jeu, que ce soit distribution, pigiste, j'ai travaillé dans des boutiques, tout ça.
D'accord.
Et eux sont dans des métiers complètement différents, notamment Eric qui est actuellement et qui reste professeur. D'école, mais en fait on aimait tous les jeux de société et eux ils avaient des projets pour la création de jeux, moi j'étais déjà un petit peu dans le financement participatif, les Kickstarter, la gestion pour ce genre de choses, donc on s'est dit faisons équipe et faisons les jeux à laquelle nous on aimera jouer.
Ça a commencé quand?
Ça depuis 2016-2017.
D'accord, alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut dire de votre ADN, c'est quoi le style de jeu?
Alors, c'est assez particulier parce que moi, j'ai un attachement très particulier aux jeux de société. On pourrait dire, comme vous pouvez peut-être entendre avec mon accent, je suis pas né en France, je suis d'origine britannique.
Ouais.
Mais j'ai passé la plupart de mon temps ici. Et pour apprendre le français et même pour intégrer la société, pour trouver des amis, pour commencer à me sentir bien en France, c'est beaucoup le jeu de société, les jeux de figurines, le jeu de société en lui-même, qui m'a beaucoup aidé à me sentir chez moi, au niveau chez moi, je suppose.
D'accord.
Donc moi, j'ai toujours eu cette approche très, très connectée avec le jeu de société à cause de ça.
Ouais.
Et en fait, ça c'est les effets toujours dans notre ligne éditoriale, c'est-à-dire que nous, ce qu'on privilège après tout, c'est des bons moments avec des gens autour de la table. Ce qui reste, on va dire, le point fort du jeu de société face à toutes les autres moyens de divertissement qui sont actuellement courants, on va dire.
Quel est le plus gros succès d'Holy Grail jusqu'à ce jour?
Alors, jusqu'à ce jour, sans compter l'Empire de César, parce que les résultats restent à voir, notre plus grand succès, c'est un jeu de course qui s'appelle Rallyman.
Ouais.
Jeu de course que, même au début, moi, j'avais pas trop cru dans les jeux de course sur plateau, même si on a certains qui sont assez, on est à des références dans le milieu. Mais c'est un jeu de dés, un jeu de push your luck, de stop ou encore, si vous voulez.
Ouais.
Qui donne, dans les moyens du jeu de société, une vraie petite sensation de jeu de course face aux autres joueurs autour de la table.
Alors, vous utilisez beaucoup le Kickstarter, on en a parlé là, tout à l'heure. C'est primordial aujourd'hui pour une maison d'édition comme vous?
Alors, ça, c'est une longue question qui peut avoir des réponses très détaillées. Mais pour faire court, pour nous, notre ligne éditoriale, je reste sur si, parce qu'on reste une petite équipe, on reste une petite boîte, nos résultats restent modestes, on va dire,
ouais.
Surtout comparé aux gros dans l'industrie. Et en fait, le Kickstarter nous permet tout simplement de se donner à fond dans le développement du jeu, que ce soit les règles, que ce soit les illustrations, le côté artistique, la présentation, la ligne éditoriale, la qualité, comparé aux autres projets où normalement on devrait financer ça tout en amont, et puis procéder avec un schéma de distribution classique.
Ouais. Il y a aussi cette association avec Synapse Games. Comment s'est fait la rencontre avec Karl Brière?
Alors ça s'est fait à travers nos partenaires mutuels en Amérique du Nord, Luma, c'est notre distributeur commun.
Ouais.
Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait la même mentalité pour les gens, on avait vraiment la même vision, on va dire, du marché.
Mm-hmm.
Et Karl Brière, en étant un excellent éditeur et quelqu'un qui est très rodé dans le milieu, on a trouvé qu'en fait, c'était un partenariat assez rêvé pour les deux parties. Pour vraiment s'étendre sur le marché.
Justement, quel est le rôle de chacun aujourd'hui?
Donc, nous, Holy Grail Games, on est éditeur,
oui,
principalement et avant tout. En ce qui concerne nos jeux, donc Karl et Synapse, ils font en sorte de localisateurs, distributeurs pour les marchés francophones. C'est notre pont, si vous voulez, vers les marchés un peu plus développés à laquelle nous, en tant que boîte, on n'aura normalement pas accès.
D'accord. Et alors, du coup, est-ce que vous allez développer des jeux ensemble ?
Alors, ça a déjà commencé, mais je ne peux pas dire plus.
Et alors, maintenant, sur les boîtes, que c'est le cas de l'Empire de César, il y aura vos deux logos.
Oui, c'est ça. Et j'en profite aussi pour préciser que nous, on a toujours essayé de faire ça avec nos distributeurs, avec nos partenaires. Et donc, on a même poussé cette idée encore plus loin avec Synapse Games, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment un retour sur nos jeux. Que ce soit en relecture des règles, en termes de... Parce qu'ils sont dans le marché depuis encore plus longtemps que nous, ils ont traîné dans des plus hautes sphères, on pourrait dire.
Ouais.
Et donc, ils ont une vision encore plus développée que nous, ils ont des réactions et des intuitions un peu plus développées que nous, on peut dire. Et donc, du coup, d'avoir leur retour est très important pour travailler ensemble et vraiment produire des produits qui sont à la fois... ludique et amusant, et mais bien sûr qui se vend parce qu'on est une entreprise et on doit payer les loyers.
C'est sûr. Alors on va parler de l'Empire de César, d'ailleurs, qui est la première collaboration entre Synapse et puis Holy Grail. Comment est né ce jeu ?
Alors le jeu qui s'appelle César, enfin l'Empire de César, avant s'appelait Tous les chemins mènent à Rome.
D'accord.
Roads to Rome en anglais. Et en fait, c'est un jeu que nous avons entre les mains depuis, je dirais, 2018-2019.
D'accord.
C'est l'auteur de nos autres jeux, Titan. Tu as peut-être vu,
oui,
qu'il est une énorme Eurogame très compliquée avec une grosse plateau plastique, qui a dit, celui-ci, je veux faire un jeu à laquelle je peux jouer avec mes enfants. Et donc, il nous a présenté les jeux et j'ai tout de suite adoré, j'ai tout de suite vu le promesse, on va dire, dans la mécanique. Et nous avons procédé à faire une illustration, j'ai pas de mal à le dire maintenant, assez basique. C'est-à-dire, voilà, on utilisait un thème roman très classique, des illustrations familiales très classiques.
Ouais.
Et nous avons procédé en temps, on a fait tester le jeu à plusieurs événements. Tout le monde a adoré, les gens ont essayé de nous acheter le prototype, la totale. Donc on était assez contents, on va dire, on est assez excités par l'idée. Mais vient ensuite le test avec nos partenaires de distribution. Et sur le front du mécanique et de l'expérience de jeu, tout le monde a dit que c'était génial, qu'il y avait vraiment beaucoup de potentiel.
Ouais.
Mais par contre, la thème était très difficile à vendre. Parce que, voilà, encore une fois, j'ai pas de mal à dire, il était banal. Il était vraiment cette thématique très... des choses qu'on a vues des milliers de fois. Ce qui était un peu notre volonté, mais de l'entendre un distributeur dire « Ouais, alors le jeu est bien, mais... il va juste se fondre dans les étagères et il ne se vendra pas.
Ouais. »
C'était un peu déconcertant. Donc, on s'est dit, bon, comment on peut rendre le jeu appétissant ? Comment on peut donner une chance au jeu de séduire les joueurs ? Et ensuite, on s'est dit, bon, écoute, la licence se fait beaucoup actuellement dans le jeu de société. Mmh. Et en fait, on s'est dit, bon, où est-ce que il y a une licence qui utilise des romans, éventuellement, qui sont un peu connus.
Bah oui.
Et en fait, bon, je reviens à ce que je disais avant de mon attachement aux jeux de société. Quand j'apprenais le français, une des premières choses que moi, on m'a donné plutôt, c'était des vieux VHS, des cassettes d'Astérix, en français, mais avec des sous-titres anglais. Les 12 travaux, tout ça.
D'accord.
Blanc, la totale. Les miens étaient noirs et blancs. Et moi, j'ai eu cette connexion avec Astérix très tôt, à savoir qu'en Angleterre, je le connaissais, mais de très, 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 très loin. Et bien sûr, le reste de l'équipe qui est français, Astérix reste une sorte de héritage culturel à laquelle personne ne s'échappe. Mmh. Et avec bonne raison.
Ouais, Jamie, justement, c'est compliqué, un jeu à licence, parce qu'on ne peut pas tout faire, du coup.
Non, bien sûr que non. Alors, quand on s'est mis sur l'idée de faire Astérix, parce que justement, il y avait cette côté romain, il y avait un autre jeu de société qui s'appelait Villanus, qui a fait un peu le même principe.
Avec Disney,
un jeu avec les licences Disney, mais de mettre le point sur les méchants plutôt que les gentils.
Ouais.
Et de se focaliser sur les méchants d'Astérix nous permettait d'aller voir les autres personnages romains et autres qui demeurent très intéressants, même s'ils ne sont pas toujours en première place comme les Gaulois. Et donc, du coup, on a approché Albert René, ils étaient très séduits par l'idée. Mais bien sûr, voilà, comme j'ai dit avant, Astérix reste une sorte d'héritage culturel en France. Donc, du coup, on pouvait absolument pas faire n'importe quoi. Il y avait plusieurs règles à respecter. Et même si je considère que nous avons pu apporter un petit peu notre pierre à l'édifice de ce qui est Astérix et, on va dire, les produits dérivés, c'est sûr que c'était une période d'apprentissage pour nous. C'était notre première licence. On se disait, on savait à quoi s'attendre. Mais bien sûr, voilà, il y a toujours quelque chose à laquelle on ne s'attend pas et à laquelle on doit s'adapter. Mais en vue de tout ce qui s'est passé pendant le développement, c'est-à-dire que bon, voilà, il y a eu la pandémie tout au début de tout cela. Il y a eu aussi, malheureusement, la mort de Uderzo. Voilà, c'était sans doute une période assez stressante pour Alba René, pour nous, quoi.
Bien sûr. Et puis, alors, ce jeu, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il est magnifique avec ses petites figurines de légionnaires posées sur le plateau et tout ça. Ça rend vraiment le jeu super. On va parler justement de ce jeu. La sortie est prévue quand? Si on sait qu'il y a plein de problèmes de transport en ce moment, date de sortie.
C'est le moins qu'on puisse dire.
La date de sortie du jeu.
Oui, la sortie est prévue pour ce vendredi-là.
D'accord.
Il était censé être le vendredi dernier, mais bon, comme tu viens de dire, c'est pas nos problèmes de transport. Mais nous avons eu de la chance. On a eu le décalage d'une semaine par notre planning initial, ce qui est plutôt pas mal.
Oui, c'est clair.
Par rapport à ce que certains se tapent, même nous, sur d'autres projets, c'est interminable, ces histoires.
Ouais. Alors, vous étiez à Essen, mais pas dans le festival cette année. Pourquoi?
Non. Nous, on reste une petite équipe. Et je dois vous dire que moi, ma priorité absolue, c'est la santé de mon équipe, de mes employés.
Bien sûr.
Du coup, même si le festival a jugé que tout aurait pu avoir lieu, pour des visiteurs, quand tu visites un stand, quand tu circules, quand tu prends de l'air frais et quand tu restes pas sur place pendant 4 jours et que tu es masqué, enfin toutes les autres précautions qu'ils ont prises que j'applaude, le risque est moindre. Par contre, d'avoir une équipe sur place pendant 4 jours à se serrer la main, à toucher des pièces de jeu à laquelle des centaines de gens ont touché, je ne suis pas prêt, moi encore, à prendre ce risque personnellement, donc je n'en force pas sur mon équipe. Donc du coup, oui, nous avons été à Essen, mais plutôt pour des réunions. On n'a pas eu de stand cette année, ce qui m'attriste, parce que j'adore les festivals, il me manque depuis 2 ans. J'ai hâte qu'on puisse y retourner, se reconnecter avec notre communauté, nos joueurs, mais malheureusement, c'était pas encore le moment. J'espère que l'année prochaine, on pourrait y aller avec l'esprit un peu plus tranquille, mais bon, ça, c'est le temps qui nous dira.
Ouais, c'est le choix aussi qu'avait fait Asmodée, hein, de ne pas être présent à Essen.
Je ne juge absolument pas ceux qui étaient présents. Ça, c'est nos ressentis, et ça ne tient qu'à moi et à notre équipe.
Bien sûr. La prochaine sortie, c'est Museum Pictura. Alors, c'était prévu en fin d'année, ça va être décalé à l'année prochaine?
Alors, ça,
c'est les transports.
C'est actuellement sur le bateau. Ça devrait toucher le port dans un peu plus d'une semaine.
Ah, j'espère. Oh!
Oui. Mais le problème, c'est que, en fait, tous les soucis qu'on se tape actuellement dans le milieu du jeu ont des effets à toute la chaîne de production et de logistique. Donc, actuellement, même si se charger des jeux sur un bateau est difficile, on a encore des problèmes à l'autre bout, c'est-à-dire que les douanes sont assez surchargées et puis les compagnies de transport routières aussi. Donc, croisons les doigts que tout s'enchaîne bien, mais c'est trop tôt encore pour se prononcer. La sortie du jeu est prévue dans un peu moins d'un mois.
D'accord.
J'espère que ce sera suffisant. Croisons les doigts.
On va croiser les doigts alors. Il y a d'autres projets, je suppose. Ce qu'on peut parler, bien sûr.
On a toujours bien des projets en cours. Nous, à savoir que, bon, à cause du pandémie, on a pris beaucoup de retard sur nos projets en cours et notre priorité reste vraiment de livrer ces projets en bonne et due forme. Ils sont en retard, mais ça ne veut pas dire qu'ils devraient être de mauvaise qualité. On doit tenir nos promesses, tout ça. Mm-hmm. Donc, du coup, pendant ces derniers 12-18 mois, on était assez silencieux sur nos projets à venir. Simplement parce qu'on ne voulait pas donner l'impression aux gens qu'on se concentrait sur d'autres gros projets en laissant d'autres derrière. Heureusement, Pictura commence à arriver. J'avais mentionné Titan qui, lui, va sortir de l'usine, j'espère, en début de mois prochain.
D'accord.
Nous avons aussi Museum Deluxe qui est une version déluxifiée du premier jeu de Museum.
D'accord.
Là où Pictura, c'était des tableaux artistiques. Museum 1, c'était des objets historiques. Et nous avons aussi la suite de Rallyman, que j'avais aussi évoqué tout à l'heure, donc Rallyman Dirt, qui est la version rallye de Rallyman, contrairement à des courses sur piste.
D'accord.
Qui doit arriver. Et là, une fois que nous avons un peu confirmé que tout ça, c'est bien en route, c'est bien en production, que les gens n'ont plus s'inquiéter normalement pour des retards, on va commencer à communiquer beaucoup plus sur nos projets à venir.
D'accord. Très bien. Bon, en tout cas, il y a quand même pas mal de sorties. Donc, maintenant, je pense, on l'a dit tout à l'heure avec Rallyman, qui est aujourd'hui votre plus grosse vente, mais vous espérez beaucoup en l'Empire de César.
Alors, oui. Pour être tout à fait franc, oui, bien sûr. Après, c'est un jeu dans lequel nous croyons, que nous avons mis beaucoup d'efforts, à laquelle toute l'équipe s'est appliquée. Mais comme j'ai dit, Astérix, ça nous a tous marqué.
Bien sûr.
Le fait d'apporter notre pierre à l'édifice, comme j'avais dit tout à l'heure, était, pour dire ni plus ni moins, une vraie honneur à avoir cet petit espace pour nous. Et ça, c'est vraiment sur toute l'équipe et même les gens qui sont externes à l'équipe, nos freelancers, Alexandre Bonvalot, qui est l'illustrateur de la couve des personnages, tout ça, qui était ravi de participer au projet, qui d'ailleurs nous a beaucoup aidé, parce que lui, il a déjà bossé avec beaucoup de grosses licences dans les domaines comme le jeu vidéo et autres.
Donc, ouais.
À cause de lui, il savait à quoi s'attendre, c'était un vrai champion. Et même le César qui est sur la couve, à savoir que ça, on l'a illustré de rien. C'est une vraie illustration originelle, c'est pas calqué de aucune illustration de BD. Donc il y avait beaucoup d'allers-retours entre Albert René, nous et Alexandre,
oui.
Parce que voilà, César, ça reste une des piliers de la franchise. Sans trop entrer dans le détail, le nombre de rides, est-ce qu'il doit être, bon, César est un peu vieux, mais pas trop vieux, c'était toute une discussion, et Alexandre était un vrai champion, et Albert René était très patient avec nous, le temps qu'on trouve, c'est juste au milieu, pour vraiment rendre hommage à ce que c'est Astérix, mais de notre propre manière, dans notre ligne éditoriale.
Ouais, voilà. Bien sûr, ouais. Eh ben, merci beaucoup, Jamie, d'avoir été sur Millennium. On aura certainement l'occasion de se reparler, puis on se verra aussi peut-être à Cannes.
Ah bah, on peut espérer. Normalement, c'est prévu. On verra ce que le temps nous dit.
C'est ça. Merci beaucoup, Jamie. À très bientôt.
Merci beaucoup encore pour l'invitation.
Au revoir.
Bonne continuation. Ciao, ciao.